France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Thaïssa Froidur, Swad Boukorsa, Julien Calvas et Olivier Dehaye. Voici la quatrième et dernière émission de notre série consacrée au pianiste et chef d'orchestre Jean-François Esser, dont nous allons évoquer aujourd'hui la discographie des années 2010 avec Saint-Saëns, Brahms, Gershwin, Beethoven, Berlioz, mais aussi Théodore Dubois, Bernard Herrmann, Federico Mompou et un tout récent Karlheinz Stockhausen. Mais c'est avec Claude Debussy que nous allons commencer cette émission, non pas une œuvre pour piano seul, mais une des cantates que le jeune Debussy, âgé de 20 ans, avait composée à l'occasion de son prix de Rome. Il faisait partie des lauréats de la Villa Médicis. Les prix de Rome de Claude Debussy et ses cantates étaient honorés par Hervé Niquet, qui dirigeait ici le chœur de la radio flamande en 2009, avec la soprano Guylaine Girard et au piano Marie-Joseph Jude et Jean-François Esser.
Saint-Saëns, Brahms, Gershwin, Beethoven, Berlioz.
Claude Debussy avait échoué au prix de Rome en 1882, il ne l'obtiendra qu'en 1884 avec sa cantate « L'enfant prodigue », mais il est intéressant d'entendre le parcours de ce Debussy, entre guillemets, académique, pour séjourner à Rome. Et c'est ce que propose ce coffret paru chez Glossa, avec des œuvres comme « Le gladiateur »,« Invocation »,« La damoiselle à lu » ou encore « L'enfant prodigue ». Et il y a ce « Salut printemps » sur un texte de Anatole de Ségur, joué ici par Marie-Joseph Jude et Jean-François Esser pour accompagner le chœur de la radio flamande et la soprano Guylaine Girard, dirigée par Hervé Niquet. D'après notre technicien, eh bien Bruno Coulet se serait fortement inspiré de cette partition pour les chœurs des choristes, célèbre film français. Alors toujours en 2009, le 16 juin 2009, Jean-François Esser était en concert avec l'orchestre Les Siècles, dirigé par François-Xavier Roth, j'ai du mal à prononcer ce prénom-là, dans le 4e concerto pour piano en do mineur, opus 44, de Camille Saint-Saëns, partition composée en 1875 et créée à Paris, au Théâtre du Châtelet, par le compositeur. Voici la fin de cet opus 44 de Monsieur Saint-Saëns, dont nous célébrerons, en tout cas nous commémorerons la mort l'année prochaine. Ce sera l'un des grands anniversaires de l'année 2021. Thank you. Jean-François Esser à Paris en 2009 était accompagné par l'orchestre Les Siècles, dirigé par François-Xavier Roth, dans le quatrième concerto opus 44 en do mineur de Camille Saint-Saëns, dont nous écoutions la partie finale.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Hier, je vous ai proposé d'entendre quelques danses hongroises de Brahms enregistrées en 2001 par Marie-Joseph Jude et Jean-François Esser, et je vous lisais un extrait du dialogue qu'ils avaient eu avec Michel Blanc, l'acteur et réalisateur, au sujet de Brahms. Voici un autre extrait de cet échange qui s'est réalisé sous le micro d'Olivier Bellamy. Ce qui est passionnant chez Brahms, déclare Jean-François Esser, c'est que la musique populaire et la musique savante sont toujours imbriquées. On retrouve cela dans toute son œuvre. On pense évidemment au final à la Zingarese du Quatuor avec piano en sol mineur, mais les finales des deux concertos de piano sont écrits aussi à partir de motifs populaires. Ce mélange est très subtil dans les danses hongroises. Un orchestre populaire ou un violoniste de bar se fiche pas mal du son. Nous sommes dans le cadre d'une texture populaire, mais aussi d'une facture savante. Donc le son est aussi important que pour une sonate de Beethoven. Mais il faut aussi être libre, sans tomber dans les tics d'interprétation ou dans les facilités de la musique populaire. En concert, on peut se permettre d'aller plus loin, mais au disque, il faut rester dans des limites acceptables. Voilà qui pourrait s'appliquer à l'enregistrement qu'ils ont réalisé tous deux en 2010 autour des variations sur un thème de Haydn et autour de cette sonate opus 34B dont nous allons écouter un extrait. Il s'agit d'une autre version du fameux quintet opus 34 pour piano et quatuor à cordes. Voici face à face dans ce scherzo Marie-Joseph Jude, en tout cas côte à côte, Marie-Joseph Jude et Jean-François Esser.
Thank you.
Le scherzo de la sonate en fa mineur opus 34b de Johannes Brahms, c'était Marie-Joseph Jude et Jean-François Esser sur le même piano, piano à quatre mains. Jean-François Esser, dont les appétits musicaux, un appétit bien sûr, c'est masculin, sont très variés comme nous l'entendons depuis lundi avec, par exemple, la musique d'un certain Théodore Dubois. Voilà un élève d'Ambroise Thomas, compositeur de partitions d'opéra comme Hamlet, Théodore Dubois qui a été prix de Rome en 1861, organiste puis maître de chapelle à Sainte-Clotilde, puis à la Madeleine où il avait succédé à Camille Saint-Saëns, qu'on évoquait tout à l'heure. Théodore Dubois était également professeur au Conservatoire de Paris. Il en devient directeur en 1896, succédant à son maître Ambroise Thomas. Et parmi les élèves du conservatoire, il y avait un certain Maurice Ravel, qui avait été exclu du concours d'essai au prix de Rome, ce qui avait provoqué un scandale. Et on a longtemps dit que dans ce scandale, suscité par cette éviction, Dubois aurait démissionné. En fait, le pauvre Dubois n'y était apparemment pour rien et avait déjà fait part de ses droits à la retraite. Son successeur à la tête du conservatoire sera le maître de Ravel, Gabriel Fauré. Alors je tiens cette rectification de l'histoire d'un des ayants droit de Théodore Dubois. Et puis Dubois était compositeur. Alors certes pas un compositeur central comme Ravel ou comme Fauré, mais c'est l'auteur d'une musique tout à fait digne d'intérêt que Jean-François Esser a joué et dirigé face à l'orchestre Poitou-Charentes en octobre 2010 à Poitiers. Un enregistrement qui lui permettait au piano de rejoindre également le violoncelliste Marc Copé.
Thank you.
Bon, ça ne mange pas de pain, mais ça s'écoute bien, cette musique de Théodore Dubois. Suite concertante, nous écoutions l'Allegro final avec le violoncelliste Marc Copé et le pianiste Jean-François Esser qui dirigeait l'orchestre Poitou-Charentes, dont il est directeur artistique depuis l'an 2000. Un orchestre qui, en 2007, du fait du redécoupage de la carte de France, s'appelle l'orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine. Justement, en 2013, il allait retrouver cet orchestre pour un projet américain, en tout cas un voyage américain, si on en croit ce titre, American Journey, d'un disque paru chez Mirare, la firme de René Martin, que bien sûr Jean-François Esser connaît comme tous les pianistes pour les Folles Journées de Nantes et également pour la Rock d'Anthéron. Eh bien, c'est un voyage américain qui nous permet d'entendre des musiques de Bernstein, de Samuel Barber, de George Gershwin ou encore de Charles Ives. George Gershwin, dont voici sous les doigts de Jean-François Esser, le deuxième prélude en Do dièse mineur. Le deuxième des trois préludes de George Gershwin par Jean-François Esser pour ce disque consacré à de la musique américaine, musique pour piano seul et puis musique orchestrale. Vous écoutez France Musique, il est 14h11, vous êtes peut-être encore à table, peut-être en train de travailler, de faire la vaisselle ou dans votre voiture. Dans ce cas, tout va très bien, mais si vous êtes sous votre douche, sortez immédiatement, car la musique que vous allez entendre risque de vous plonger dans une certaine angoisse. Il s'agit de la musique que Bernard Herrmann avait composée en 1960 pour le film Psycho, Psychose d'Alfred Hitchcock. Voilà, c'est fini. Vous pouvez sortir du placard et retourner dans la salle de bain. C'était Psychose de Bernard Herrmann, enregistré par l'orchestre Poitou-Charentes sous la direction de Jean-François Esser, extrait d'un disque intitulé American Journey.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Alors, changeons totalement d'atmosphère, toujours en compagnie de Jean-François Esser qui revient au piano pour un nouveau disque consacré au compositeur catalan Federico Mompou. Nous avons eu l'occasion de l'entendre dans Suburbis, partition de 1917. Voici une œuvre bien postérieure puisqu'elle date de 1959, c'est la Musica Cagliada. Il est assez difficile de traduire et d'exprimer le vrai sens de Musica Cagliada, écrit Mompou, dans une langue autre que l'espagnol. Le grand poète mystique San Juan de la Cruz, Saint Jean de la Croix, chante dans une de ses belles poésies La musica cagliada, la soledad sonora, cherchant à exprimer ainsi l'idée d'une musique qui serait la voix même du silence, la musique gardant pour soi sa voix cagliada, c'est-à-dire qui se tait, pendant que la solitude se fait musique. Fin de citation. Il y a quatre cahiers de Musica Cagliada, c'est la fin du quatrième que nous allons entendre avec ses commentaires de Guy Sacre dans sa musique de piano, avec ses tritons énigmatiques, son dodelinement placide et régulier, ses répétitions. La 26e partie, Lento, est une véritable incantation qui retrouve le pouvoir d'hypnose des chants magiques. Et de la 27e, disons simplement que c'est la page la plus bouleversante de toute la musique de Mompou. les 28 pièces du cycle, dans leur dépouillement extrême, leur lenteur monacale, leur solitude sonore, représentent pour leur auteur sa réussite la plus complète, le résumé de sa pensée musicale. Elles contiennent l'essentiel de sa conception esthétique. Voilà ce que Jean-François Esser a écrit au sujet de Musica Cagliada que Federico Mompou a conçu entre 1959 et 1967. Nous écoutions les trois dernières pièces du quatrième et dernier livre de cette partition enregistrée par Jean-François Esser en 2013. Nous allons entendre maintenant de nouveau le chef d'orchestre avec le pianiste, puisque en 2014-2015, pendant l'hiver 2014-2015, Jean-François Esser a retrouvé son orchestre, qui allait être rebaptisé l'orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine, l'OCNA, pour l'enregistrement de l'intégralité des 5 concertos pour piano de Beethoven, dirigeant bien sûr de son piano. Nous avions entendu Jean-François Esser finir le 20e siècle en 99 avec les ultimes partitions pianistiques de Beethoven. C'est donc dans ce répertoire concertant qu'on le retrouve, un disque qui a été une série de 3 disques qui ont été salués par la critique. J'appartiens à une école de piano français avec pour maître Vlado Perlmutter et Marcel Ciampi, expliquait-il au moment de la sortie de ce disque. Une très belle école, plus connue pour la musique française mais également passionnante dans Beethoven. À l'époque, avec l'influence du conservatoire, j'étais vraiment dans l'idée d'un Beethoven combatif, d'un compositeur sur lequel il fallait appuyer les contrastes, qu'il fallait dramatiser. Lorsque l'on est jeune et inexpérimenté, on force souvent le trait. Aujourd'hui, mes points d'ancrage et ce sur quoi je porte mon attention en termes de fluidité, de clarté, de tempo ont vraiment été modifiés pour alléger et simplifier le discours, le rendre plus naturel. Thank you.
Thank you.
Le rondo final du quatrième concerto en sol majeur opus 58 de Beethoven, c'était Jean-François Esser au piano qui dirigeait de son clavier l'orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine. Et je vous rappelle que, comme tous les jours à 17h, Aurélie Moreau vous attend pour le Van Beethoven avec aujourd'hui Beethoven ouvre la voie vers la musique à programme.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Et voici un héritier direct de Beethoven, c'est Hector Berlioz et sa symphonie fantastique. Non pas avec l'orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine, mais avec Jean-François Esser et Marie-Joseph Jude dans une adaptation, une transcription réalisée par Jean-François Esser lui-même pour un piano, pour deux pianos. Et plus exactement, il jouait ici pour un piano à double clavier. C'est un instrument très particulier qui est conservé précieusement au musée de la musique, à la Cité de la musique à Paris. Un piano Pleyel de 1928 formé d'une caisse commune et de chaque côté de cette caisse il y a un clavier. Il y a eu 74 instruments construits de ce type. L'un appartenait notamment à Alfred Cortot et depuis 1983 le musée de la musique à Paris possède l'un de ces pianos qui est tout à fait jouable. C'était le cas en 2018 sous les doigts de Jean-François Esser et Marie-Joseph Jude. Cette transcription de la symphonie fantastique pour deux pianos a été entreprise il y a une trentaine d'années, écrivent-ils. Berlioz est l'un des rares compositeurs de l'époque moderne à n'avoir jamais pensé piano. Si l'idée d'entendre la symphonie fantastique au piano relève peut-être du cabinet de curiosité, nous espérons néanmoins que ce disque attirera l'attention sur nombre de détails parfois gommés par la flamboyance de l'orchestre. Le piano vis-à-vis, Pleyel de 1928 du musée de la musique de la Philharmonie de Paris, s'est imposé à nous pour cet enregistrement. Ici, ce projet, c'est celui des deux quarts de queue emboîtés qui offrent une vision analytique et favorisent l'osmose d'un son global développé par une caisse de résonance commune aux deux instruments. Voilà ce qu'écrivent Jean-François Isser et Marie-Joseph Jude qu'on entendait ici dans un bal extrait de la symphonie fantastique de Berlioz arrangée par Jean-François Isser. Vous le savez, la vie musicale a été fortement impactée par l'épidémie que nous vivons, mais elle ne s'est pas totalement arrêtée. Les musiciens continuent de travailler, notamment dans les studios d'enregistrement. C'est ainsi que Jean-François Isser a réalisé tout récemment son dernier enregistrement avec le trentenaire Jean-Frédéric Neuburger. Le septuagénaire Jean-François Isser travaille avec lui autour d'une partition tout juste cinquantenaire, c'est Mantra de Karlheinz Stockhausen, dont voici un extrait.
Thank you.
En 1970, Karlheinz Stockhausen composait Mantra et 50 ans plus tard, en 2020, Jean-François Esser et Jean-Frédéric Neuburger l'avaient enregistré avec Serge Lemouton pour la partie électronique. Merci à Mirare qui nous offre cette exclusivité d'un enregistrement qui sortira en 2021. Et puis France Musique offre une carte blanche à Jean-François Esser pour le Carrefour de la Création. Ce sera dimanche 24 janvier à 22h. Bonjour Lionel Esparza.
Bonjour François-Xavier Somchak. Un beau cénotaphe musical demain.
Eh bien oui, demain nous rendrons hommage à Debussy à travers un tombeau musical qui a été dressé de par le directeur de la revue musicale Henri Prunière, qui a fait appel à des grands compositeurs de l'époque, Manuel de Falla, Stravinsky, Ravel, pour écrire un hommage collectif à Monsieur Claude de France.
C'était en 1920 et ce sera demain dans les arabesques.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.